Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Les grands moyens outre-Rhin. Angela Merkel à la manœuvre pour sauver sa coalition après un flirt éphémère entre droite et extrême droite à Thuringe. Nous serons en ligne de Berlin dans un instant avec David Philippot. Le coronavirus en Chine oblige les autorités hongkongaises à la quarantaine. En France, 5 nouveaux malades ont été repérés et hospitalisés sans signe de gravité. Des Britanniques ayant côtoyé fin janvier dans un chalet de Haute-Savoie un compatriote de retour de Singapour. Il n'y a pas d'autre solution que de déconstruire pour mieux reconstruire. Déclaration de la ministre des Sports que vous entendrez en fin de journal. Répondre à Didier Gayaguet, le président de la Fédération des Sports de Glace, démissionnaire depuis la mi-journée. Il y eut le choc provoqué par une poignée de main. Alliance entre droite et extrême droite plein cadre. Thomas Kemmerich, membre peu connu du Parti libéral démocrate allemand, le FDP, devenait le premier ministre président fédéral élu avec le soutien de l'AFD. Alternative für Deutschland, shocking à Berlin. Après la déflagration, voici venu le temps des répliques et la chancelière allemande de manifester sa colère avant, avec fermeté, de tirer les conséquences du vote de Thuringe. Bonsoir David Philippot.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
David, des répliques, j'en parlais, il y en eut plusieurs ces dernières 48 heures.
Oui, la plus récente, c'est la démission effective de Thomas Kemmerich, le président de région au mandat le plus court de l'histoire de la République fédérale. 3 jours exactement, il l'avait annoncé, mais c'est donc désormais officiel. Thomas Kemmerich a cédé sous la pression de la rue, des manifestations en série et surtout, vous le disiez, celles exercées par Berlin. Le SPD et la CDU réunis tous les deux aujourd'hui pour un sommet de coalition à la chancellerie le lui ont demandé expressément. Et puis une fois n'est pas coutume, les deux partis au gouvernement se retrouvent également sur une même ligne favorable à de nouvelles élections en Thuringe. Il y a eu un échange de bons procédés. Le représentant du gouvernement pour l'Est a été sacrifié sur l'autel de la réconciliation. Christian Hirte, c'est son nom, avait salué l'élection du président et surtout l'échec de la gauche en Thuringe. Une entorse à son obligation de neutralité. Le Parti social-démocrate voulait donc sa tête. Il l'a eu en échange de son ralliement à la position des chrétiens-démocrates pour de nouvelles élections, mais plus facile à dire qu'à faire. Il faut réunir les 2/3 des voix sur cette motion. Pas facile dans un Parlement où siègent 6 formations. L'autre option serait une nouvelle élection d'un candidat au sein même du Parlement régional. Mais cela fait donc plus de 3 mois que les députés sont incapables de se mettre d'accord sur un nom. On pourrait donc bien, Mathieu, revenir au statu quo ante, c'est-à-dire la paralysie des institutions.
Merci à vous, David Philippot, en direct de Berlin. L'armée syrienne a repris ce samedi aux djihadistes et rebelles la ville clé de Sarakeb dans la province d'Idleb. Dernière victoire en date pour le régime qui mène une offensive meurtrière dans le nord-ouest de la Syrie. L'opération a tué plus de 300 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, et provoqué l'exode de plus d'un demi-million de civils, d'après l'ONU. Les autorités françaises déconseillent ce soir à ses ressortissants les voyages en Chine, sauf raison impérative. Les autorités françaises, aux prises avec 5 nouveaux cas de coronavirus, les 5 cas, un enfant et 4 adultes sont apparus au sein d'un groupe de 11 personnes, toutes britanniques, ayant séjourné fin janvier dans 2 appartements au sein d'un même chalet au Contamine Montjoie en Haute-Savoie. À la mi-journée, décision a été prise de fermer les 2 écoles fréquentées par l'enfant âgé de 9 ans. Elle se situe au Contamine Montjoie, commune où cet élève de CM1 habite, et à Saint-Gervais, où il prend des cours de français. Ne jouons pas à la peur, s'est empressé de marteler le préfet de Haute-Savoie tout en livrant quelques recommandations aux familles. Pierre Lambert.
Il est conseillé aux enfants des 2 écoles et à leurs parents, aux enfants en tout cas, peut-être aussi à leurs parents, de rester chez eux dans la semaine qui vient, le temps des analyses et des prises de contact. Ce serait la sagesse. Ce sera annoncé ce soir à la réunion des contamines. L'idée, encore une fois, l'école est enfermée. Il est préférable qu'en effet, ces enfants ne sortent pas, ne fassent pas de ski, et que les parents eux-mêmes puissent être en charge de leurs enfants à domicile pendant quelques jours. Le temps, encore une fois, que les analyses soient faites, que les contacts soient pris et qu'on puisse lever le doute sur d'éventuelles contaminations supplémentaires qui auraient pu avoir lieu.
une autre contrée hors Chine continentale et bien d'autres réalités. À Hong Kong, qui compte à présent 25 cas de malades touchés par le virus de Wuhan, des nouvelles mesures de quarantaine sont en vigueur depuis minuit. Des dizaines de milliers de personnes passaient encore la frontière ces jours-ci. Ils étaient 96 000 hier. La nuit dernière, à 2h du matin, quelques centaines de personnes s'étaient massées au poste frontière de la baie de Shenzhen, l'un des deux derniers postes encore ouverts entre Hong Kong et la Chine. Sur place, le reportage de Florence de Changy.
Les premiers voyageurs à être mis en quarantaine en arrivant de Chine par avion à Hong Kong sont les passagers malchanceux d'un vol arrivé de Pékin avec 2 heures de retard après minuit cette nuit. En fait, la plupart des gens qui rentrent encore à Hong Kong actuellement en provenance de Chine sont à 90% des résidents hongkongais. Ils vont désormais être assignés à résidence pendant 2 semaines avec obligation de porter un masque et de surveiller leur température. Les membres de leur famille, en revanche, ne sont pas soumis aux mêmes règles. Quant aux visiteurs à Hong Kong, ils peuvent loger soit à l'hôtel, soit dans un lieu d'accueil prévu par le gouvernement, mais avec les mêmes conditions, pas le droit de sortir de sa chambre pendant 2 semaines, port du masque, etc. Des peines pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 3 000 euros d'amende sont prévues pour les éventuels contrevenants. Pourtant, l'efficacité de cette quarantaine est déjà critiquée, car les moyens de contrôle sont très flous. En outre, pour se rendre chez eux ou dans leur hôtel, les personnes mises en quarantaine ont pu utiliser les transports publics, notamment le métro, où les mesures d'hygiène à respecter sont certes répétées en boucle.
C'est l'une des lignes de partage des eaux américano-russes en Amérique latine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, vient tout juste de quitter le Venezuela. Une visite pour réaffirmer le soutien de la Russie au président Nicolas Maduro, dont le pouvoir est contesté par l'opposant Juan Guaido. Il a notamment accusé les États-Unis, qui ont accueilli l'opposant en véritable président cette semaine, de multiplier les provocations contre Caracas. C'est une correspondance de Benjamin Delisle.
Une fois de plus, le Venezuela est l'objet d'une lutte d'influence entre la Russie et les États-Unis. Après s'être entretenu avec Nicolas Maduro et plusieurs ministres, Sergueï Lavrov a condamné les sanctions américaines qui constituent selon lui le principal facteur de la crise économique au Venezuela.
Nous redisons notre solidarité et notre respect pour le peuple et le gouvernement vénézuélien dans leur lutte contre la pression illégitime des États-Unis et de leur soutien. Nous condamnons fermement les méthodes de chantage et les sanctions qui sont contraires à la charte de l'ONU, car elles représentent une ingérence dans les affaires de pays souverains.
Le ministre russe des Affaires étrangères a également participé à une réunion de la Table nationale du dialogue, un processus de négociation entre une minorité de l'opposition et le gouvernement vénézuélien.
Nous réitérons notre soutien total au président Maduro et au gouvernement vénézuélien dans leurs efforts pour promouvoir le dialogue national et pour y faire participer tous les secteurs de la société.
Il n'y inclut visiblement pas la majorité de l'opposition dirigée par Juan Guaido, qui l'a qualifié d'extrémiste. Le message est clair, la Russie ne lâchera pas Nicolas Maduro de sitôt. La guerre d'usure avec les États-Unis va donc continuer sur la question vénézuélienne. D'ailleurs, Washington a profité de la visite de Sergueï Lavrov pour annoncer de nouvelles sanctions, cette fois-ci contre Conviasa, la compagnie aérienne publique du Venezuela.
Dernier développement de cette édition, la démission à la mi-journée du président de la Fédération des sports de glace après une série de révélations d'agressions sexuelles de plusieurs anciennes patineuses, parmi elles Sarah Abitbol, qui a accusé dans un livre son ancien entraîneur Gilles Beyer de l'avoir violée et agressée sexuellement plusieurs fois entre 1990 et 1992. Didier Gayeguet, contraint à la démission par Roxana Maracineanu, a dénoncé, je cite, « la dictature ministérielle ». La ministre des Sports a réagi dans l'après-midi à ses propos.
Aujourd'hui, c'est des dysfonctionnements au sein d'une fédération qu'on veut mettre à jour, en lumière. C'est un silence institutionnalisé auprès par rapport à ces cas qui sont nombreux, qui se sont étalés dans la durée et qui posent question aujourd'hui du fait que ces informations qui n'étaient pas évidemment connues dans un tel degré de gravité et qui n'ont pas forcément été couverts, mais qui ont été des rumeurs, des bruits, des on-dits, le fait même que M. Gayeguet se soit positionné dans sa défense pour, en disant que lui-même n'était pas au courant de tout ça, alors que beaucoup de monde disait qu'ils étaient au courant, c'est finalement ce qui peut aussi poser question. Donc maintenant qu'il a assumé cette responsabilité en démissionnant de son poste, je l'invite justement à répondre avec précision et acuité aux questions qui lui seront posées au moment de cette enquête de l'inspection générale et qu'il nous accompagne dans cette démarche, puisque lui-même n'ayant pas été au courant, j'imagine que ça l'intéresse aussi de savoir comment c'était possible qu'il ne soit pas au courant.
28 personnes interpellées cet après-midi à Paris en marge d'une manifestation de gilets jaunes interdite par la préfecture de police. La météo de demain, tempétueuse à souhait sur la moitié nord du pays, des zones particulièrement ventées à 100-120 km/h se situeront sur les bords de Manche et entre les Hauts-de-France, les Ardennes, puis le nord-est la nuit suivante avec localement 130 km/h sur la côte d'Opale et le littoral de Seine-Maritime ainsi que le relief du Nord-Est en soirée. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau à la technique, YouTube Diego Atlopes.